Aujourd'hui, à Rencontre, exceptionnellement, une émission sur quelqu'un qui vient de mourir, d'entrer au ciel, Mère Teresa. Mère Teresa, que Dieu est venu chercher vendredi. Il était temps. Elle était prête. Oui, il y a longtemps qu'elle était prête, cette femme admirable, extraordinaire. Un jour, je mangeais chez André Chédid, une Libanaise, écrivain à Paris, et j'avais devant moi Luc Balbon, dont il a été question ce matin, hier, à la Radio Ville-Marie, Luc Balbon, qui a écrit un très beau livre, Mère Teresa, en notre âme et conscience. Il me disait qu'il avait publié ce livre, ce sont des entretiens avec différentes personnes de différentes religions. Il y a des musulmans, évidemment des catholiques, il y a des orthodoxes, des incroyants, des juifs, etc., des hindous, mais... Et il avait fait ça parce que à la télévision, un soir, alors qu'il y sentait un peu triste, me disait-il, lui qui était incroyant, il a vu la tête de Mère Teresa, mais le son, il avait baissé le son. Il dit simplement de voir ce sourire m'a transformé. J'ai senti qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur d'elle-même. Et j'ai voulu savoir... Et c'est pour ça qu'en publiant son livre chez Nouvelle Cité, Mère Teresa, notre âme et conscience, on a cette photo magnifique, une des plus belles de Mère Teresa, avec ce sourire, cette joie qu'elle a prêchée partout. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Je relève, avant de commencer, que dans la presse hier, quelqu'un a osé écrire au sujet de Mère Teresa ce qu'il fallait dire. Mais c'est Pierre Folliat, plus curieux. Il dit, on a tellement présenté Diana Spencer, la princesse de Galles, comme une grande jeune femme toute simple dont la simplicité avait soufflé comme une brise rafraîchissante sur les poussiéreuses mœurs royales, que des millions de nonos, enfin c'est le vocabulaire de Pierre Folliat, que des millions de nonos à travers le monde ne sont pas loin de croire qu'elle était secrétaire dans une usine de chaussures de Liverpool avant de rencontrer le prince Charles. Wow! Rappelons que cette grande fille, tout simple, a été élevée dans un château de 100 pièces. Rappelons que les gens élevés par des nounous dans des châteaux de 100 pièces cultivent la simplicité comme les granolas cultivent le topinambour, parce que c'est amusant, exotique. La pauvreté est souvent pour les grands de ce monde, princes et princesses, le dernier endroit d'où revenir avec un frisson. Décalage horreur au lieu de décalage horaire. On va chez les pauvres et les sidéens parce que c'est plus excitant que d'aller à Bornéo. C'est aussi beaucoup moins loin. Tu peux aller voir les pauvres le matin, déjeuner au Ritz à midi et coucher au château le soir. Pour Mère Teresa, la pauvreté est tout autre chose. C'est le royaume de Dieu. Là où elle rejoint Diana, c'est dans l'acceptation de la pauvreté comme un lieu de rédemption et de sanctification. À l'une, Dieu a donné des pauvres pour se désennuyer le mardi matin. À l'autre, pour devenir une sainte. C'est très audacieux de la part de Pierre Folliat d'écrire cela. Il va sans dire que l'exemple que la princesse Diana a donné quand même à l'humanité, de s'occuper, un tant soit peu, des pauvres ne serait-ce que quelques heures par semaine, c'est déjà quelque chose. Et vendredi, quand elle est morte, Mère Teresa, j'entendais au Lear Report, grande émission d'affaires publiques américaines, un commentateur qui disait « Peut-être, croyez-vous en Dieu ?» Mais j'ai l'impression que Dieu a voulu donner à l'humanité une leçon aujourd'hui. Durant toute cette semaine où les gens s'inquiètent et pleurent au sujet de la princesse, Voilà qu'il appelle Mère Teresa pour nous rappeler les vraies valeurs. Le don de soi. La joie du don, comme est intitulé l'un des plus beaux livres de Mère Teresa. La joie du don, publié au Seuil. Un livre que j'ai lu et relu et relu depuis 20 ans, qui est magnifique. Dieu a beaucoup d'humour, comme disait ce commentateur américain. Il a voulu nous enseigner les vraies valeurs. Il nous a préparés avec la princesse, mais finalement, c'est Mère Teresa qui dit les vraies choses. Et elle rappelle, Mère Teresa, toute sa vie, cette parole du Christ. Ce n'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Pour faire cette émission, je m'inspire d'un beau récit de Marie-Claude et Antoine de Lestre paru au Sarment, aux éditions du Sarment, dans la collection Témoins de toujours. Mère Teresa n'a jamais aimé parler d'elle-même. Elle ne s'est jamais plus à évoquer ses souvenirs et à dire ce qu'avait été son enfance. Il y a une époque où les gens sont tellement bavards et aiment tellement se raconter, elle est extrêmement discrète, disait-on. Je vous parle d'elle au présent parce que pour moi, elle est toujours vivante. La mort, ça n'existe pas au fond. La mort, c'est un passage. C'est comme la naissance. Avant la naissance, on est là. Et on est. Mais après la mort, on est. C'est la grande naissance. C'est la naissance à la vie éternelle. Elle est vivante. On peut lui parler, Mère Thérèse, on peut l'invoquer. Il y a une époque où les gens sont tellement bavards, et je dis, ils aiment tellement se raconter qu'elle est tellement discrète, elle. Elle a toujours répété ce que je vous ai dit, ce n'est pas moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Jésus n'a jamais donné de détails sur son enfance et sa vie jusqu'à l'âge de 30 ans. Nous savons donc peu de choses sur les premières années de son existence à cette Mère Teresa. La petite Agnès Boiaccio, future Mère Teresa, naît le 27 août 1910 à Skopje, en Macédoine. C'est un pays qui est devenu une des parties finalement de la Yougoslavie et dont ils se sont séparés il y a quelque temps. Ses parents sont d'origine albanaise. Elle est donc en fait albanaise. La pauvre Albanie, ce pays qui a été martyrisé d'une façon abominable par un régime communiste effroyable. Son père, après avoir exercé divers métiers, possédait une entreprise assez florissante de construction, oui. Et sa mère a élevé les trois enfants, Aga, qui est l'aîné, Lazare, curieux nom, hein, Lazare, celui que Jésus a ressuscité. Pourquoi pas? C'est un beau nom, finalement, quand on y pense, Lazare. Et Agnès, la Benjamine, c'est elle. Et ses trois enfants portent à leur mère une immense affection. C'est une femme très pieuse, d'ailleurs. Elle fréquente assidûment la paroisse, la ville. Elle s'intéresse en particulier à la vie des missionnaires. Ça me rappelle ma mère, qui s'intéressait tellement à la vie des missionnaires. Nous étions inondés de revues de missionnaires, et c'est très intéressant d'élever les enfants dans une maison où il y a des revues de missionnaires. Oui, vous devriez vous abonner à 3, 4, 5 revues de missionnaires. Les enfants vont les lire, vont lire des choses merveilleuses. Alors le père et la mère de notre Agnès, future Mère Teresa, s'occupent des pauvres, leur donnent à manger, les habillent et les soignent. Et une fois, se souvient son frère Lazare, ma mère a entendu parler d'une pauvre femme de Skopje qui souffrait d'une tumeur. Il n'avait plus personne pour la soigner. Sa famille ne voulait plus d'elle, lui refusait toute aide et l'avait même jetée dehors. Ma mère l'a recueillie chez nous. Elle l'a nourrie et soignée jusqu'à sa guérison. À ce moment-là, la famille vit toujours dans cette petite ville de 20 000 habitants, Skopje, en Macédoine. La région est occupée par les Turcs. Les Turcs, c'est pas facile, hein? Depuis des siècles, Dieu que les Turcs ont fait des tas de dégâts pendant des siècles et des siècles. Pourtant, j'ai un de mes frères qui a travaillé parmi eux pendant 5 ans. Il disait qu'ils étaient merveilleusement charmants et gentils individuellement, hein? Mais pour peu de temps seulement, les parents ont vécu là, car les Grecs, les Serbes, les Bulgares ne vont pas tarder à les chasser, puis à occuper le pays, puis Après la Première Guerre mondiale, bien la Macédoine va devenir l'une des 6 républiques qui constituent la Yougoslavie jusqu'à tout récemment. Et à 9 ans, Agnès est une petite fille heureuse, lirieuse et débrouillarde même, et jamais à court de parole. Son frère, Lazare, disait que c'était un garçon manqué. Un drame va cependant bouleverser cette période. Son père meurt subitement et Madame Boyaxio doit prendre un commerce de broderie. Ça ressemble à la mère de Sainte-Thérèse d'Enfant Jésus, qui faisait du point d'Alençon. Et malgré sa tristesse, eh bien, elle fait tout pour préserver le climat familial, qui reste paisible et chaleureux. Et à l'exemple de sa mère, notre petite Agnès est très intéressée par le travail des missionnaires. Elle aimait, dit son frère Lazare, les rencontrer, les écouter lorsqu'ils rentraient de leur voyage au bout du monde. Que c'était beau, ces missionnaires qui venaient dans nos églises et dans nos écoles nous parler de leurs merveilleuses aventures et qui nous récitaient au besoin « Je vous salue Marie » en chinois ou je ne sais quoi. Ça nous éveillait à 6, 7, 8 ans. C'était tel bon temps. Un jour, lors d'une réunion paroissiale, le prêtre montre une carte du monde qui indique tous les points de la mission et Agnès est capable d'expliquer l'emplacement exact et l'action de chaque mission. Quel étonnement chez tous ceux qui l'écoutent. Elle est déjà au courant, elle connaît sa géographie et la géographie des missions. Agnès a en effet été séduite par le travail de ces missionnaires jésuites qui œuvrent en Inde depuis 1925. Et elle apprend que des religieuses y sont également. Ce sont les sœurs de Lorette, ou comme on dit en anglais, de Loreto. Les Français, évidemment, comme nous les Québécois, on appelle ça les sœurs de Notre-Dame de Lorette. Son enthousiasme, sa curiosité grandissent de jour en jour. Alors Agnès se sent de plus en plus appelée à rejoindre ses missionnaires et les prêtres qu'elle rencontre l'écoutent et l'encouragent. Elle est maintenant persuadée que Dieu lui demande de quitter sa famille. Elle est toute jeune, hein, une adolescente. L'affection qu'elle éprouve pour les siens est si forte toutefois qu'il lui est bien difficile de prendre la décision. C'est pas facile, hein, mais sa vocation finit par gagner. Puis là, à 18 ans, oui, c'est pas si... Quand on dit que la Vierge a mis Jésus au monde à 16 ans... On peut bien rentrer en religion à 18 ans. On dit que les enfants sont plus matures aujourd'hui. Ils connaissent plus de choses. Mais ont-ils l'équilibre? Souvent, ils attendent si longtemps qu'ils perdent leur équilibre. Alors Agnès se porte volontaire pour la mission du Bengale. Et Agnès a quitté sa famille. Donc, elle veut rejoindre les sœurs de Lorette en Inde. Et pour ce faire... Elle se rend d'abord à la maison mère de la congrégation en Irlande, au couvent de Rathfarnham, pour faire son postulat. Puis elle y apprend l'anglais. Et on peut imaginer le dépaysement de la jeune novice lorsqu'elle arrive en Inde. Les Anglais sont encore chez eux, notamment à Darjeeling. Buvez du thé Darjeeling des fois, mais ça vient de là. C'est leur résidence d'été favorite, les Anglais. Puis elle débarque un jour... en 1929. Et c'est dans cette ville de 40 000 habitants, située à 2000 mètres d'altitude, une station estivale pour les riches, où la misère est pourtant présente, qu'elle va commencer son noviciat et après 2 années, à 20 ans, le 24 mai 1931, Agnès prononce ses premiers vœux et elle prend en religion le nom de Thérésa. Alors, Mère Thérésa, qui est devenue religieuse, qui a fait ses vœux à 20 ans, le 24 mai 1931, est envoyé à Calcutta dans un collège magnifique. Vous avez peut-être déjà vu des photos de ce collège, St. Mary's High School. Magnifique, c'est pour des jeunes filles de milieu aisé. C'est tenu par les sœurs de Lorette. Elle y enseigne l'histoire et la géographie avec un plaisir certain pendant 17 ans. Elle est directrice des études un certain temps. Après toutes ces années, sa vocation première va lui faire prendre un autre chemin. Quelque chose d'important trouble de plus en plus, sœur Thérésa. Est-ce que ça vous trouble pas, vous aussi? C'est l'effroyable misère. L'effroyable misère de Calcutta qu'elle connaît, mais c'est la même misère partout dans le monde. Calcutta est aussi une très belle ville, dans un sens. Il y a de très beaux quartiers à Calcutta, de très belles choses à voir à Calcutta. Mais c'est une ville de cauchemar. Montréal est aussi une ville de cauchemar quand on connaît les pauvres. Avec la maladie, la saleté, l'horreur, la chaleur étouffante l'été. Quand une fois vous avez connu Calcutta, dit un religieux, vous ne pouvez plus jamais l'oublier, elle a une attirance étrange. Cette foule immense d'indigents C'est une ville de mort et de vie. La vie triomphe de la mort. Ces masses abandonnées vivent et sourient, dorment et se lamentent. Alors le collège où elle travaille a beau servir d'écran, Sœur Teresa entend récent. Et elle voit l'immense souffrance qui l'entoure. Et en 1946, elle a 35 ans, tandis qu'elle se rend en train à Darjeeling pour y faire une retraite. L'appel de Dieu se précise. Et là, elle comprend. Elle comprend qu'elle doit renoncer à tout, et particulièrement à l'enseignement, la chose qu'elle préfère, et quitter sa communauté religieuse où elle est si heureuse, et elle est persuadée que Dieu lui demande de le suivre, lui, dans les taudis, pour le servir parmi les plus pauvres des pauvres. Comme les petites sœurs de l'Assomption, comme les sœurs de la Charité de Saint-Vincent de Paul, comme les sœurs de tant de communautés, vous savez, ce n'est rien de nouveau. Elle n'a rien découvert de nouveau. Elle n'a fait que vivre ce que vivaient bien d'autres sœurs avant, depuis des siècles. Mais avant de pouvoir tout quitter pour la seconde fois, Teresa doit attendre. Quand j'ai dit ça, je ne peux pas diminuer la beauté de la vie de Mère Teresa. Je voudrais qu'on prenne conscience que dans l'Église, c'est des milliers, des dizaines de milliers de Mères Teresa qui existent et qu'on ne connaît pas. Tout d'abord, bien entendu, il faut qu'elle ait l'autorisation de l'archevêque de Calcutta, qui est Mgr Ferdinand Perrier. Et celui-ci, qui est prudent, lui demande si elle se sent assez forte physiquement et spirituellement pour accomplir un tel travail qui est très exigeant. Et malgré ses réponses positives, sa détermination, l'évêque la laisse pas quitter sa communauté. Elle accepte par obéissance, sans toutefois renoncer quand même. Je vous ai dit, elle avait du caractère quand elle était déjà enfant. Comme Thérèse de Lisieux, hein, Dieu ne fait pas des saints avec des mollassons. Il faut avoir du caractère, il faut avoir de la volonté, il faut avoir du désir. Et il est clair dans son esprit qu'elle doit faire quelque chose pour les pauvres, servir Dieu à travers eux. Après quelque temps, elle retourne donc voir l'archevêque pour lui reparler son projet. Alors celui-ci lui conseille alors d'écrire à qui? Bien, à la supérieure générale, c'est normal, de son ordre. Et la réponse est encourageante, bonne supérieure qu'elle avait. Il ne reste plus à Sœur Teresa qu'à convaincre qui? Oh mon Dieu, le pape Pie XII, auquel elle fait parvenir un message. Or, le 12 avril 1948, elle reçoit du pape l'autorisation de vivre hors du couvent. Ça arrivait pas souvent, ça. Mais ce n'est que le 16 août, donc plusieurs mois plus tard, 1948, que l'archevêque de Calcutta lui permet de tout quitter pour la deuxième fois. Et puisqu'elle a décidé de se consacrer à la misère humaine, Sœur Teresa doit d'abord suivre des cours d'infirmière indispensables pour soigner les pauvres. Elle va donc à Patna, grande ville universitaire, à 600 kilomètres de là. Trois mois plus tard, elle est de retour à Calcutta. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle troque son habit de religieuse noir. On a vu des sœurs de Lorette, costume assez traditionnel, noir, avec la guimpe blanche, là. Pour un autre vêtement, vous le connaissez, c'est le sari blanc à bordure bleue, avec une croix sur l'épaule gauche. Il restera l'habit de la congrégation qu'elle va fonder. Elle a 38 ans et les religieuses partout dans le monde, elles sont 4000, portent ce costume, ça ne les gêne pas, et elles deviennent des témoins, grâce à ce costume, de l'amour de Dieu, mais grâce surtout, évidemment, au sourire qu'elles ont, à l'âme contemplative qu'elles ont, à l'amour qu'elles portent aux pauvres et à tout le monde qui se présente, grâce à cette présence de Dieu en elles. Mais leur costume est le signe. Elle se met aussitôt au travail. Et pour commencer, elle ouvre une petite école, non plus pour enseigner à des jeunes filles de la bourgeoisie, non, mais à des enfants pauvres. Il n'y a ni table, ni banc, ni tableau. On écrit par terre. Souvent, avant de commencer, elle débarbouille les enfants, et lorsqu'elle a fini, bien, elle rend visite aux malades, dans des bidonvilles. Elle aide, comme elle le peut, les femmes dans leurs tâches ménagères. Les sœurs d'Assomption font ça, hein? Les sœurs des pauvres. Mais oui. Beaucoup de sœurs font ça aujourd'hui dans beaucoup de communautés, vivent parmi les pauvres. Même les sœurs du Sacré-Cœur, dont on dit qu'elles sont très élégantes, très savantes, très instruites, elles sont souvent très humbles. J'insiste là-dessus parce que c'est on centre trop sur Mère Teresa et pas assez sur toutes celles qui sont ignorées, Il y en a probablement qui m'écoutent actuellement. Je les salue. Nous vous aimons, mes sœurs, et le spectacle quotidien des malades et des mourants fait vite découvrir à Mère Teresa son impuissance devant tant de souffrances. Et une jeune fille partie récemment aider Mère Teresa ressentit la même impuissance. Oui, te reconnaître, Seigneur, dans ces corps décharnés qui appellent l'amour. Te reconnaître, par exemple, dans Oumia, 19 ans, dont le visage me poursuit. Je ne t'oublierai jamais, Oumia. Cette année, au mois de mars, ton petit garçon est mort de faim à 1 an. Puis tu t'es fait taillader au couteau. La souffrance sans nom, le refus de l'hôpital de t'accueillir car tu n'as pas d'argent. Les larmes me montent aux yeux quand, écrivant tout ça, je revis ces situations. Mère Teresa a l'impression de faire naufrage dans un océan de douleur et de désespoir. Et là, la tâche qui l'attend lui paraît évidemment immense. Un moment tentée par le souvenir du confort qui était le sien au couvent de Lorette, elle va cependant continuer. Même si elle est seule et ne possède rien, elle garde une inébranlable confiance en Dieu. Mais rapidement, les gens apprennent ce que fait Sœur Teresa. La rumeur s'amplifie. Certains lui donnent de l'argent, d'autres la nourriture, d'autres encore l'aident dans son école. Puis d'anciennes élèves la rejoignent. Elles veulent la suivre dans son aventure spirituelle, la suivre comme les disciples et les apôtres ont suivi Jésus. Et pourtant, Teresa les prévient de ce qui les attend. L'existence sera dure, c'est ce qu'elle leur dit. Et la mise en garde, loin de les freiner dans leur élan, semble au contraire les stimuler. En tout cas, les vocations sont de plus en plus nombreuses dans le nouvel ordre religieux qu'elles fondent à Calcutta, le 7 octobre 1950, c'était l'année sainte. C'est la congrégation des missionnaires de la charité. Missionnaires de la charité. Cet amour qui vient du cœur de Dieu, qui transperce le cœur des croyants. Ces sœurs se lient à Dieu et à leur communauté par 4 vœux. Celui de chasteté pour se montrer plus disponible au service du Christ. Je répète, celui de chasteté pour se montrer plus disponible au service du Christ. Celui de pauvreté. De pauvreté, pour se libérer de toute possession matérielle. Comment peut-on regarder les pauvres en face, dit Mère Teresa, si on ne vit pas comme eux? Celui d'obéissance, qui est une autre façon de donner et d'être aimé. Obéir, obéir à l'Église dans ce qu'elle a de beau à nous enseigner. C'est plein de choses. Sommes-nous obéissants? Et enfin, celui de servir gratuitement et de tout cœur les plus pauvres des pauvres, ça c'est un beau vœu, hein? Servir gratuitement et de tout cœur les plus pauvres des pauvres. Mère Teresa est d'abord hébergée quelque temps chez les petites sœurs des pauvres, justement, puis elle va s'installer dans une chambre au 2e étage d'une grande maison au Cutters Creek Lane à Calcutta chez un homme. Et bientôt, il faut s'occuper une autre pièce pour les sœurs et une troisième, etc. Alors le nombre des sœurs augmente. Elles doivent prendre tout l'étage, ainsi qu'un logement annexe. Et puis, une personne qui habitait la même maison se rappelle la vie des sœurs à ce moment-là. À 8 heures, elles étaient déjà toutes sorties. Elles passaient leur matinée au service des pauvres. Elles rentraient pour le déjeuner. Puis l'après-midi, elles le passaient à étudier. Mais après le dîner, la maison retentissait de rire et de chants, car les sœurs jouaient, couraient sur la terrasse et faisaient trembler toute la maison. Puis c'était l'heure de la prière et elles allaient se coucher. Mais des femmes heureuses. C'était le moment où elles étaient, où celle qui était devenue la mère allait s'asseoir à une petite table pour écrire, puis écrire aux personnes désireuses d'entrer dans la communauté, puis écrire aux prêtres aussi, puis écrire à ceux qui l'aidaient en Inde, puis à l'étranger. Quelle merveille, fondation. Quelle merveilleuse fondation. Quelle merveille que cette fondation. En février 1952, Mère Teresa a 41 ans, les sœurs missionnaires de la charité sont 30 déjà. Elle a été fondée 2 ans plus tôt. Même pas, 1 an et demi plus tôt. Trop à l'étroit au 14 Creek Lane, à quelques temps. Elles déménagent et elles vont s'installer dans un autre quartier, dans un immeuble que leur a obtenu l'archevêque de Calcutta. Alors, les sœurs poursuivent leur travail auprès des pauvres. C'est un travail inlassable. Un jour, près de l'hôpital Campbell, non loin de leur maison, elle voit un homme qui agonise au bord de la route. Mère Teresa se renseigne. La direction de l'hôpital ne peut pas le prendre. Elles vont dans une pharmacie chercher un médicament, puis quand elles reviennent, il est mort. Mère Teresa va au commissariat de police pour se plaindre de cet état de choses. Et elle leur dit même un chat ou un chien n'aurait pas été traité de cette manière. Telle est l'origine de la maison qu'elle crée pour les mourants, très vite appelé le mouroir. Le bâtiment qu'on lui prête à cet effet, provisoirement, dit-on, est situé dans l'enceinte du célèbre temple d'une déesse hindoue, la déesse Kali, la déesse de la mort. C'était autrefois un lieu de repos pour les pèlerins fatigués. Tous les jours, les sœurs ramassent les moribonds qui agonisent dans les rues de Calcutta, les conduisent au mouroir. Alors on leur parle, on leur donne à manger, on les soigne, on les habille, on les considère, on les aime. Beaucoup sont surpris. Après avoir vécu comme des bêtes, ils redeviennent, à l'approche de la mort, ils redeviennent des êtres humains. Et en 30 ans, près de 40 000 personnes ont été accueillies. En 50 ans, le double. Des cancéreux, des tuberculeux, des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes atteints de maladies diverses. Elle construit des léproseries où ces damnés de la terre trouvent refuge. Missionnaires les soignent, rééduquent, ils leur apprennent un métier quand ils peuvent entrer chez eux et ne plus mendier. Mère Teresa n'oublie pas non plus les milliers de bébés et d'enfants abandonnés dans les rues, parfois dans les poubelles. Oui, abandonnés dans des poubelles, les sœurs les accueillent dans des chichous bavanes, c'est-à-dire des maisons conçues pour eux. Je me souviens de cette fillette avortée en Inde et qui avait survécu à l'avortement et des sœurs de Mère Teresa l'ont sauvée. Une femme de Montréal, dans l'ouest de Montréal, a adopté cet enfant. Cet enfant est venu vivre à Montréal. J'ai filmé cette mère avec son enfant dans les bras en 1975 à Radio-Canada. Et 20 ans plus tard, 19 ans plus tard en fait, j'étais assis un jour à côté d'une très jolie fille, au teint basané, une hindoue, catholique. J'assistais à la messe à côté d'elle. C'était elle. Très beau sourire. Magnifique fille. Elle avait été avortée. Mais sauvée grâce à Mère Teresa et à ses sœurs. La tâche de Mère Teresa est infinie. Elle a l'idée de fonder, à côté des sœurs, une communauté de frères missionnaires. Alors au début, les difficultés abondent parce que dans l'Église catholique, actuellement au 20e siècle, on n'admet pas qu'une femme puisse être à la tête d'une congrégation d'hommes. Ce qui se pratiquait autrefois, il y avait des mères abbesses d'un monastère mixte d'hommes et de femmes, c'est-à-dire deux monastères. Puis les choses s'arrangent. Alors un jésuite australien, le fameux père Travers Ball, l'aide à réaliser son projet. Il se met à son service, puis devient le frère Andrew. Et en 63, mais c'est la congrégation des frères missionnaires de la charité qui est fondée. On connaît pas assez ça. Hein? Et le succès foudroyant en leur vie est pourtant très dur. Hein? Ils font tout ce que les sœurs ne peuvent pas faire. Ils s'occupent surtout des hommes, des orphelins, des infirmes, des lépreux. Ils enseignent aussi, puis ils exécutent des travaux de construction. Alors aujourd'hui, le monde entier connaît les prodiges de ces hommes et de ces femmes, en faveur des pauvres auxquels ils ont consacré leur vie. Des évêques de tous les pays réclament l'installation de ces missionnaires dans leur diocèse, évidemment. Puis à côté de ces religieux, il y a des laïcs qui aident Mère Teresa de multiples manières. Ce sont ce qu'on appelle les coopérateurs. Alors parmi eux, ils sont des dizaines de milliers. Hein. Parmi eux, il y a des hommes, des femmes, des jeunes gens, des enfants et même des malades de tous les milieux, de toute religion. Ils veulent aimer Dieu dans leurs frères humains en se mettant de tout leur cœur là au service gratuit des plus pauvres, les plus pauvres des pauvres. Et c'est par la prière et par leurs actes d'amour pour les plus déshérités qu'ils s'unissent à l'œuvre de Mère Teresa et des missionnaires de la charité. Puis il y a aussi des enfants qui font des gestes généreux, comme se priver de cadeaux à l'occasion de leur profession de foi, mettons, ou leur confirmation. Se prient de friandises pendant des mois pour venir en aide à leurs frères et sœurs de l'Inde. Des petits gestes. Mais il y a aussi de jeunes volontaires, des garçons et des filles de plus en plus nombreux qui souhaitent aller sur place, là, se mettre à la disposition de Mère Teresa et des missionnaires de la charité pour quelques semaines ou quelques mois. Ils veulent l'aider bénévolement et secourir les malheureux. Vous pouvez le faire à Montréal ici. Nous avons des sœurs de Mère Teresa, des missionnaires de la charité à Montréal. Offrez vos services, les jeunes. Faites quelque chose durant quelques heures par mois, pourquoi pas. Et ce qui frappe chez Mère Teresa, quand on l'entend, quand on lit ce qu'elle écrit, c'est son immense foi, sa conviction inébranlable que Dieu est là et qu'il nous aime. Qu'il nous aime. C'est pas facile dire que Dieu nous aime quand c'est en souffrance, mais c'est la foi qui nous permet de croire à cet amour dévorant. Et le jour où on fait le plongeon dans le noir, ce qui surgit, c'est une lumière intense. Et le noir disparaît, et la lumière nous inonde jusqu'au tréfonds de notre cœur. Et c'est grâce à lui, à Dieu, qu'elle a pu entreprendre son œuvre. Elle disait souvent, nous pouvons tout si le Christ est avec nous. Voilà l'explication d'une ardeur qui n'est jamais fatiguée, malgré les échecs et les abandons. Hein. Des maisons ont été fermées, c'est sûr, dans certains pays, puis il y a quelques sœurs, quelques frères qui ont quitté la communauté, ça c'est sûr, comme dans toutes les communautés. Mais Mère Teresa doit sa fidélité, sa solidité, son amour pour les autres à une vie intérieure intense. Son emploi du temps comprend toujours un moment pour la méditation le matin, une heure pour l'adoration à la fin de la journée. Et, je tiens à insister là-dessus, elle communie tous les jours. C'est très important. Pas communier machinalement. Vraiment recevoir Dieu vivant dans l'Eucharistie, Jésus, qu'elle aime. Une telle foi, dans nos pays riches et repus, ça ne peut que nous interpeller, nous bousculer. Cette foi séduit finalement des milliers de gens qui cherchent un sens à leur vie. Surtout au moment où la foi de nos églises traditionnelles se transforme, Mère Teresa connaît la souffrance, elle connaît la fatigue, le dur labeur, les longues marches, les attentes infinies. Elle a voyagé dans les pires conditions, dans des trains bondés. Elle s'est assise par terre dans les taudis avec les pauvres. Mère Teresa a souffert. Elle a vu la souffrance. Elle a vécu cette souffrance. Elle l'a vécue. Et comme tous les saints, elle ne voudrait pas qu'il en soit autrement. Elle dit des choses tellement merveilleuses. Jésus a voulu nous aider en partageant notre vie, notre solitude, notre agonie, notre mort. Il nous est demandé de faire de même. Elle, c'est pas une théologienne qui nous raconte des choses alambiquées, compliquées. Et puis on se demande ce que ça veut dire finalement. Non, elle parle clairement. Jésus a voulu nous aider en partageant notre vie, notre solitude, notre agonie, notre mort. Il nous est demandé de faire de même. Il nous est donné de prendre part à la passion du Christ. C'est tellement vrai. C'est pas nécessaire de faire des choses bien compliquées. Hein? Je pense à ce que disait Monseigneur Aloysius Ambrosic, l'archevêque de Toronto, ces jours-ci. Je remercie Dieu que nous ayons eu si longtemps Mère Teresa avec nous. Elle possédait l'étonnante capacité d'aller à travers une masse de verbiage théologique pour atteindre le vrai problème. Il dit des bonnes choses à Toronto. Je trouve ça sensationnel, cet évêque. Formidable. Face aux épreuves et aux échecs, bien Mère Teresa n'a jamais cédé, ni au doute, ni à l'abattement. Et quand les sœurs étaient encore peu connues, puis les lendemains inquiétants, Mère Teresa est restée toujours persuadée que Dieu pourvoirait à leurs besoins. Comment expliquer la pauvreté rigoureuse dans laquelle vivent les missionnaires sans cette confiance en Dieu? Confiance qui ne nous est pas du tout familière souvent, mais qui existe dans l'Église depuis longtemps. Que de communautés ont fait confiance à Dieu et les miracles sont survenus constamment.
Pensez à Cotelengo ou à Turin. Connaissez-vous cette histoire? Oh, je vais vous raconter ça un jour. C'est un miracle immense qui s'accomplit là tous les jours. Depuis le siècle dernier. Et dans l'église, il y a quantité de choses comme ça. Je me souviens de ce couvent de religieuses en France qui, au cours de la guerre, eh bien, le blé se multipliait pour aider les pauvres. Vous direz, ben, c'est des histoires. Non, ça a été prouvé. Et c'est prouvé encore la multiplication de la nourriture dans les moments difficiles. La multiplication des pains existe toujours. Vous direz que je suis parti, que je suis tombé sur la tête. J'ai vérifié. Elle a une confiance, Mère Teresa. Une confiance fantastique. Aimez et vous recevrez. C'est ce que Mère Teresa répétait inlassablement à ses missionnaires. L'amour est au centre de sa vie et de son œuvre. Elle nous invite à faire de même, à vouloir devenir des saints, vouloir devenir des saints. Le jour où on veut, Dieu nous l'accorde. On ne sait pas si on l'est, on a toujours l'impression qu'on n'est rien et qu'on n'avance pas. Mais je suis sûr qu'il y a une joie au fond de nous qui est quelque chose qui ressemble à ça. C'est ce qu'est le témoignage des saints, j'ai lu ça partout. Moi, je ne le sais pas, mais je vois ce qu'ils disent et je le crois. Pour elles, nous sommes tous affamés d'amour. Et cet amour doit commencer dans notre propre maison, hein, chez nous, en aimant nos parents, nos frères, nos sœurs, notre proche, voisin, nos enfants. L'amour doit s'étendre aux pauvres. Quand nous prenons soin des pauvres, c'est Jésus que nous habillons. Que nous logeons. C'est à Jésus que nous donnons à manger. Quand nous prenons un pauvre dans la rue et que nous en faisons notre fils, c'est Jésus. Ces pauvres semblent inutiles à l'État et à la société. Personne n'a de temps à leur donner. Ils n'ont pas d'instruction, ils sont sales, ils parlent mal, on comprend rien de ce qu'ils disent. Mais c'est à nous, chrétiens, à vous et moi, dit-elle, de les trouver, de les aider, c'est elle qui dit ça. Et c'est par exemple un aveugle qui serait heureux, dit-elle, qu'on lui lise le journal, ou peut-être quelqu'un de riche que personne ne vient voir. Oui, quelqu'un de riche que personne ne vient voir, ce sont des pauvres, ces riches-là. Il y a quelque temps, raconte Mère Teresa, un homme très riche vint chez nous. Il me dit, « Ceci, je vous le donne afin que quelqu'un vienne chez moi. Je suis presque aveugle et ma femme est déprimée. Nos enfants sont tous partis à l'étranger et nous mourrons de solitude. » Alors elle ajoute le plus cruel des mots, avec tellement de justesse, et d'être indésirable. La pauvreté de l'âme, la pauvreté de solitude et d'inutilité, c'est la pire des maladies du monde aujourd'hui, pire que la tuberculose ou la lèpre. Et c'est à l'exemple de Jésus que nous devons donner cet amour. Qui que nous soyons, aveugles, infirmes, handicapés, malades, Dieu le premier nous a aimés. Le croyez-vous? En tout cas, elle dit ceux qui ne savent ni donner ni recevoir l'amour sont, quelle que soit leur richesse, les plus pauvres des pauvres. Aimer, c'est aussi accepter tout ce que Dieu nous donne et lui donner tout ce qu'il vous prend. Je serais prête à renoncer, dit-elle, à ma vie plutôt qu'à ma foi dans le Christ qui a dit « J'avais faim, j'étais nu, j'étais malade, j'étais sans foyer et vous m'avez secouru. » Pour être véritable, ajoute Mère Teresa, la foi doit être un amour qui donne. Cet amour pour les autres, selon Mère Teresa, doit commencer comment? Je trouve ça extraordinaire. Par un sourire. Elle dit aux enfants, aux pauvres, à tous ceux qui souffrent, donnez toujours un sourire heureux. À une sœur qui avait l'air triste un matin au moment de sortir dans les rues de la ville, Mère Teresa lui a conseillé de rester à la maison. Si son visage ne reflétait pas la joie, elle ne pouvait faire aucun bien. Dieu veut de l'obéissance et non des victimes. Dieu n'aime pas les victimes. L'obéissance, c'est l'amour. La victimisation, il y a l'air du masochisme là-dedans. Dieu n'aime pas la souffrance, il veut la soulager. À ceux qui lui demandent conseil, elle répond « Souriez à chacun, souriez à votre épouse, souriez à votre mari, souriez à vos enfants. Souriez donc à chacun. » Pour Jésus, tout geste d'amour, si petit qu'il soit, est important. Les grands moyens ne sont pas toujours utiles quand on aime. Ce qui compte, c'est la relation, dit-elle, avec la personne, le contact étroit avec la personne, car chaque personne, c'est le Christ. Elle dit, je ne soigne jamais les foules. Il faut donner toute son attention à une personne, ensuite, si on le peut, à une autre. Et j'aime bien ce qu'elle dit et que bien des saints ont dit. En réalité, au soir de notre vie, nous ne serons pas jugés sur le nombre ou l'importance de nos actions, mais sur l'intensité de l'amour mis à les accomplir. Vous savez que Mère Teresa s'est mérité des prix. Hein? Quantité de prix. C'est absolument phénoménal. Elle a eu le prix Nobel de la paix en 1979, à l'occasion de la remise du prix Nobel dans la capitale de la Norvège, à Oslo, petite ville fort charmante. Elle n'hésite pas à défendre le droit des enfants à naître. Elle lance un appel à leur secours. Et elle dit ceci qui me touche et me va jusqu'au fond du cœur. Aujourd'hui, je vous invite à prendre cette forte résolution. Nous allons sauver tous les petits-enfants. Les enfants à naître, nous allons leur donner une chance de naître. L'amour commence à la maison. L'amour, pour être vrai, doit faire mal. Et elle évoque un petit enfant hindou de 4 ans qu'elle avait rencontré dans les rues de Calcutta et la leçon qu'il lui a donnée. Cet enfant avait entendu dire que la mère Teresa, n'avait plus de sucre à donner à ses enfants. Il rentra chez lui puis il a dit à ses parents, « Je ne veux pas manger de sucre pendant 3 jours, je veux donner du sucre à Mère Teresa. » Puis il s'est privé de sucre pendant 3 jours. Et elle dit cette parole merveilleuse, « Cet enfant aimait d'un grand amour, il aimait à en avoir mal. » Comme les enfants peuvent nous donner des leçons extraordinaires de vie vraie. C'est à l'occasion de tous ces voyages qu'elle a fait, qu'elle a fait quelques-uns de ses plus beaux coups. Il révèle l'une des faces les plus étonnantes de la personnalité de Mère Teresa. Mère Teresa avait en effet une immense audace, soutenue par un tel charme que peu osent lui résister. Je me souviens à Turin en 1978, alors que je tournais un film d'1 heure sur le Saint-Suaire de Turin. Elle prêchait une retraite dans une église de Turin. Elle nous avait promis qu'elle accepterait d'être filmée par nous en regardant le Saint-Suaire. Je suis donc monté dans un taxi, je suis allé la chercher, tel que convenu. Et nous sommes partis tous les deux vers le Saint-Suaire de Turin dans la cathédrale. Et là, j'ai demandé au caméraman de la filmer quand elle regardait celui qu'elle aime pour l'éternité. Elle le voyait sur le linceul, en négatif. Elle le voyait. Elle voyait son sang qui la nourrissait chaque jour dans l'Eucharistie. L'âme de Jésus, car le sang c'est l'âme, c'est l'amour. Et je me souviendrai toujours de l'émotion que j'ai eue à la filmer comme ça. Et après, à la sortie, elle m'avait promis une petite entrevue, une réflexion. Mais elle était tellement émue qu'elle n'a pas pu dire un mot. Elle m'a dit, je regrette, je ne peux pas. Elle était bouleversée, elle avait vu celui qu'elle aime. Chère Mère Teresa, elle a été entourée d'attention, d'amour. Elle est partie, mais il y a quelque temps, le 7 décembre 96, 64 novices prononçaient leur premier vœu. Alors que 2 jours plus tôt, 43 jeunes religieuses ont émis leur profession perpétuelle. Elle a vu ça avant de mourir. Et puis les missionnaires de la charité ont élu une convertie hindoue pour succéder à Mère Teresa, leur fondatrice. Et le 12 mars dernier, à l'issue d'une retraite de 8 jours, qui avait été prêchée par l'archevêque de Calcutta, Monseigneur Henri de Souza, un Indien, que les 123 électrices de la communauté ont choisi à l'unanimité, ses sœurs Nirmala, une convertie. Elle est âgée de 63 ans. Elle est d'origine népalaise. C'est la nouvelle supérieure. C'est une femme admirable. Elle dit, « Si je ne considère que mes propres forces, j'ai peur. Mais en regardant vers Dieu et en me fiant à la prière, je crois que je serai capable de poursuivre l'œuvre de Dieu. » Vous savez que Mère Teresa avait démissionné en 90, mais on avait rejeté sa démission. Vous savez qu'elles ont 568 maisons réparties dans 120 pays du monde. Et cette nouvelle supérieure convertie, là, dit « Nous poursuivrons le travail de Dieu. » C'est le travail de Dieu. Le travail de Dieu. Les gens qui ont porté témoignage en son honneur ont bien dit toutes sortes de choses admirables. Je ne saurais rien ajouter de plus beau, de plus grand, que ce que le pape disait aux jeunes à Paris il y a quelques semaines. Il les demandait à la jeunesse mondiale de bâtir la civilisation de l'amour. Et c'est ça, bâtir la civilisation de l'amour. Il n'y a rien d'autre à faire que de bâtir une civilisation de l'amour. Mère Teresa priait ainsi. La joie est prière. La joie est force. La joie est amour. La joie est un filet d'amour dans lequel vous pouvez prendre les âmes. Dieu aime celui qui donne avec joie. La meilleure manière de montrer notre gratitude envers Dieu et envers les gens, c'est d'accepter tout avec joie. Ne laissez jamais le chagrin vous noyer au point d'en oublier la joie au Christ ressuscité. Nous aspirons toutes au ciel, où est Dieu, mais nous avons le pouvoir de nous trouver dès maintenant dans le ciel. Il suffit d'être heureux avec lui en l'instant présent. Mais être heureuse avec lui maintenant veut dire aimer comme il aime, aider comme il aide, donner comme il donne, servir comme il sert, sauver comme il sauve, être avec lui 24 heures par jour, le toucher sous son déguisement de misère dans les pauvres et dans ceux qui souffrent. Un cœur joyeux est le résultat normal d'un cœur brûlant d'amour. C'est le don de l'esprit, une participation à la joie de Jésus vivant dans l'âme. Alors gardons dans nos cœurs la joie et l'amour de Dieu et partageons cette joie de nous aimer les uns les autres comme il aime chacun de nous.